Radio Kapi. Oh, Kapi.
Des informations avec Belinda Bosuma.
Des finances climatiques doivent être affectées aux projets de développement des communautés. Recommandation du secrétaire général de l'ONU aux dirigeants du monde entier, Antonio Guterres s'est exprimé ainsi hier au deuxième jour de la COP27 qui se tient en Égypte. Plus de 20 morts, plusieurs maisons incendiées et des populations en déplacement. Bilan d'une attaque hier par des hommes armés au village Boku. Nous sommes dans la province de Maïndombe. Un élu du coin déplore l'absence des militaires dans cette partie du pays. Et puis, l'invité de ce midi, Dr Francis Baelongandi, chef de division provinciale de la santé dans la Tchopo. Il nous parle du plan stratégique multisectoriel de nutrition mis en place par les autorités provinciales pour combattre la malnutrition dans la province. En effet, il a été révélé que 43% d'enfants et 39% des filles en âge de procréer souffrent de la malnutrition. Madame, Messieurs, bonjour. COP27 en Égypte, au deuxième jour de cette conférence sur le climat hier, plusieurs thématiques ont été à l'ordre du jour. En dehors des discours des chefs d'État, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a invité les dirigeants du monde entier à la solidarité internationale face à la question cruciale du changement climatique. Selon lui, 50% des finances climatiques doivent être affectées aux projets de développement des communautés locales. Pour Patrick Kipalou, directeur des programmes Afrique à l'Union Initiative des droits et ressources naturelles basée à Washington aux États-Unis, le montant alloué en faveur des communautés locales est très insignifiant. Patrick Kipalou l'a dit au micro de Tati Mapoukou.
Je commencerai par dire que nous venons d'ailleurs de publier un rapport récemment sur les finances au niveau mondial sur la question des climats et de gouvernance forestière. Et une des grandes conclusions de ces rapports est le fait que les montants de financement des actions pour soutenir les communautés autochtones et locales dans la lutte contre les changements climatiques ou l'amélioration de la gouvernance forestière est très minime. Donc ça, c'est un élément important à retenir. Dans ces rapports, nous montrons clairement, basé sur l'expérience et les données qui sont collectées sur le terrain, que seulement les communautés d'abord reçoivent très très peu de soutien qui vient du niveau global dans les domaines de forêt, mais aussi nous avons essayé d'estimer, basé sur les recherches, que c'est seulement environ 17% des financements au niveau global pour les questions des climats et des conservations qui sont ciblés vers les communautés locales et autochtones qui les atteignent.
Je vous l'ai dit dans le titre, insécurité à Kwamouth dans la province de Maïndombe. Après plus d'une semaine d'accalmie, on signale une attaque lundi par des hommes armés au village Boku dans le secteur de Bateke Sud. Les sources concordantes parlent de plus de 20 morts et plusieurs maisons incendiées et aussi le déplacement des populations. Le député national Guy Moussomo, élu du coin, déplore l'absence des militaires dans cette entité. Irène Mboma nous fait le point.
Selon la société civile du territoire de Kwamouth, les affrontements entre les assaillants armés et la population de Boku, village situé entre la RN17 et la rivière Kwango, ont duré presque toute l'avant-midi de lundi 7 novembre 2022. Martin Souta, son vice-président, dresse quant à lui un bilan de 24 morts, parmi lesquels 7 assaillants. Pour l'abbé Kiré de la paroisse Notre-Dame de Sept Douleurs de Massiambio, Chrysostome et Samboala, ces assaillants armés ont aussi incendié plusieurs maisons à Boku, occasionnant ainsi, les déplacements massifs des populations vers Doumi, village situé non loin du pont Maïndombe sur la RN1 en allant vers Kinshasa. Préoccupé par ces atrocités, le député national Guy Moussomo, élu de Kwamouth, propose ce qui suit.
Ce sont des gens qui viennent du côté de la rivière Kwango, qui sont là dans ces forêts, qui commettent des bévues. Et ceux qui sont du côté fleuve aussi, commettent aussi ces bévues-là parce qu'il n'y a pas de militaires là-bas. Alors nous proposons qu'on puisse renforcer la sécurité des militaires là où il y a ces vides-là.
Notez que de l'autre côté, au territoire de Bagata, dans la province du Kwilu, des personnes ont été tuées et plusieurs maisons incendiées lors de l'attaque le même lundi du village Mumbenga, a alerté Joseph Mankoto, administrateur de ces territoires. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Du côté du Nord Kivu, des détonations ont été entendues vers les montagnes de Tchanzu, Runyoni et Ngugo. C'est à cheval entre les groupements de Jomba et Kisigari dans le territoire de Rutshuru. Par partie occupée par les rebelles du M23. Certaines sources non officielles parlent des bombardements des phares d'essai sur les positions des rebelles dans la zone, mais difficile d'avoir d'autres détails, l'armée n'ayant pas encore communiqué sur la situation côté M23. Un message attribué à Laurence Kanyuka, porte-parole de la rébellion et qui circule sur les réseaux sociaux, confirme ces bombardements. Celui-ci parle plutôt des bombardements qui cibleraient les zones fortement peuplées. Nord Kivu toujours. Les coordinations de la société civile de Rutshuru et Nyiragongo appellent la population de ces deux territoires à se méfier des rumeurs propagées dans les réseaux sociaux contre les FARDC et la MONUSCO, mais aussi de se défaire des manipulations politiques visant à opposer ces deux forces à la population pendant cette période cruciale. Cet appel est contenu dans une déclaration commune rendue publique hier à l'issue d'une rencontre de ces deux structures à Munigi dans le territoire de Nyiragongo. Dans cette déclaration, les forces vives locales fustigent, entre autres, les rumeurs en provenance de l'ennemi, selon eux, qui sont relayées par certains individus dans l'objectif de démoraliser l'armée et décourager le peuple jusqu'à le désorienter de la cible. Un extrait de cette déclaration lu par Mambo Kawaya, président de la société civile de Nyiragongo.
Condamnons l'incendie de deux véhicules de la MONUSCO par des personnes non autrement identifiées à Kanyaruchinya et appelons la population de ces deux territoires de s'abstenir de tout acte de violence et des attaques vis-à-vis de la MONUSCO, partenaire direct du gouvernement congolais qui accompagne ces derniers temps les FARDC dans les patrouilles et autres activités militaires qui visent à bouter dehors les ennemis de la République démocratique du Congo qui opèrent sous le nom des terroristes du M23. Eu égard de ce qui précède, nous, coordination territoriale de la société civile, forces vives de Nyiragongo et celle de Rutshuru, appelons la population de ces deux territoires de répondre favorablement à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'être vigilant, aussi bien de soutenir sans relâche les forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent jour et nuit jusqu'au sacrifice suprême dans la reconquête des zones sous l'occupation du Rwanda et de l'Ouganda.
Entre autres recommandations, les deux coordinations territoriales de la société civile encouragent le gouvernement congolais à doter les FARDC d'une logistique capable de neutraliser l'ennemi et d'identifier l'assistance humanitaire en faveur des déplacés de Rutshuru se trouvant à Nyiragongo et ailleurs. Le général-major Camille Bombele, coordonnateur des opérations conjointes FARDC-UPDF au Nord Kivu et en Ituri, a rencontré ce mardi pour la première fois le général-major Dick Olum, nouveau commandant des troupes ougandaises déployées en RDC. La rencontre s'est déroulée à Kalembo, un village du secteur de Rwenzori dans le territoire de Beni, selon des sources militaires. Après une réunion en présence de certains officiers militaires congolais et ougandais, les généraux Camille Bombele et Dick Olum ont débuté une visite d'inspection des troupes des armées congolaises et ougandaises déployées dans le secteur de Rwenzori. Rappelons que c'est depuis le 12 octobre dernier que le général Dick Olum a été nommé par le président ougandais en qualité du commandant des troupes de l'UPDF déployées au Nord Kivu et en Ituri dans le cadre des opérations conjointes avec les FARDC dénommées Tchouja contre les EDF. C'est sa première visite dans la région après sa prise de fonction. Dans l'actualité aussi, l'ouverture hier à Kinshasa des travaux de l'Assemblée plénière extraordinaire des évêques membres de la CENCO, travaux ouverts par Mgr Marcel Outembi, archevêque de Kisangani. Selon le président de la CENCO, l'objectif essentiel de cette session est de se former et s'informer des mesures d'application de l'accord cadre entre le Saint-Siège et le gouvernement de la RDC sur des matières d'intérêt commun. Cet accord a été signé le 20 mai 2016 et dont l'échange des instruments de ratification a eu lieu le 17 janvier 2020. La clôture de cette session interviendra demain mercredi. Mgr Marcel Outembi en parle au micro de Jeff Ngoy.
L'objectif de cette session est de nous former et nous informer sur comment assurer une mise en œuvre efficiente des mesures d'application de l'accord cadre. Plus concrètement, Il s'agit de vulgariser cet accord cadre en conscientisant d'abord les administrateurs des entités ecclésiastiques, notamment les évêques et leurs collaborateurs à la matière, à savoir les gestionnaires des institutions ecclésiastiques et des œuvres d'apostolat, pour les porter à faire un bon usage de l'accord cadre comme instrument de la mission évangélisatrice dans le respect du droit canonique et des lois de la RD Congo. Nous saisirons la présente occasion pour nous informer du nihil obstat accordé par le tribunal suprême de la signature apostolique au projet d'érection des tribunaux ecclésiastiques interdiocésains en RD Congo.
Direction l'Ituri, les opérateurs économiques du secteur pétrolier se plaignent de l'insécurité qui persiste en province et du non-respect de l'application de la convention signée entre la FEC, Fédération des entreprises du Congo, et la province, convention qui prévoit la perception de 1000 dollars par camion-citerne qui entre ou qui transite par l'Ituri en échange de l'asphaltage de plusieurs kilomètres de routes par territoire. En plus de l'insécurité qui réduit le trafic, ces pétroliers se plaignent également du très mauvais état de la route alors qu'ils s'acquittent, disent-ils, de leurs taxes auprès du FONER, Fonds d'entretien routier. Ils demandent au gouvernement provincial d'asphalter la nationale numéro 4 entre Kisangani-Maagi et Kisangani-Aro. Le point dans ce reportage de Jean-Claude Loki.
C'est depuis 2019 que cet accord entre la Fédération des entreprises du Congo, FEC, Antenne de l'Ituri, et le gouvernement provincial a été signé. Cette taxe conventionnelle, acceptée par les deux parties, devait servir entre autres à arranger les routes, voire asphalter certaines dans chaque chef-lieu de territoire. Seulement près de 3 ans après cet accord, le président de la FEC du territoire d'Aro se dit déçu de constater que rien n'a été réalisé dans son entité. Robert Amassi.
Quand on fait la sommation depuis 2019 jusqu'à ces jours, nous avons encaissé des milliers de l'argent et malheureusement cet argent est gardé au niveau de la province.
Pour les conseillers du gouverneur en charge de communication, plusieurs axes routiers sont déjà réhabilités, d'autres sont en chantier et cela grâce à ce fonds. Lieutenant Jules Ngongo.
Prenons le cas Iga Barrière Lira. En bas à Makeke, là aussi il n'y a pas un problème. Route Aru Ariwara jusqu'à Mbokolo Kengezi Base, là il n'y a pas un problème. Peut-être s'il y a un problème d'entretien ou de maintenance des routes, nous sommes déjà en œuvre pour répondre à leurs préoccupations.
Signalez que pour la ville de Bounia, c'est l'entreprise Safricas qui avait gagné le marché pour l'asphaltage de 15 km des artères principales, des travaux qui avancent à pas de torture, affirment certains observateurs. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Sud Kivu, plusieurs tronçons de la route nationale numéro 2 en état de délabrement avancé dans le territoire de Calais. À ce jour, on parle des camions des marchandises, des véhicules des humanitaires qui sont bloqués sur ces axes depuis quelques jours. L'Office des routes du Sud Kivu dit attendre les moyens financiers pour intervenir. Emmanuel Elamenji, reportage.
La route nationale RN2 Bukavu-Goma est sérieusement abîmée au niveau de Nyamishonga, située au PK 103 de la ville de Bukavu. Cela, non loin des nôtres. Autre point appelé chez les Français, c'est là où la chaussée s'est complètement affaissée et perturbe la circulation. La société civile du territoire de Calais plaide toujours auprès du gouvernement congolais et d'autres partenaires pour une intervention dans l'urgence. Delphine Birimbi.
C'est depuis caché que jusqu'à Minova où la route est fortement impraticable. Et si vous allez sur l'axe Nyabibwe, précisément à Nyamishonga, à côté de chez les Français, là c'est à Nyamishonga, là on peut enregistrer plus même de 20 camions qui sont bloqués. Là-bas. Prenons Bigeni, prenons Makengere, Ploango, Chibimbi, Nyamasasa jusqu'à Hundu et Makelele. Là, vraiment, ce n'est plus une route. Il y a eu même un accident la fois passée où un camion s'est écroulé sur une maison. Donc, ça présente un danger, que ce soit sur le plan économique, que ce soit plus le plan sécuritaire, et que ce soit sur le plan circulation des habitants. Donc, c'est déjà un problème d'une manière générale.
La direction provinciale de l'Office de route Sud Kivu rassure que les matériels sont disponibles en ce moment pour intervenir, mais c'est à tout moment que le financement est aussi prêt. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Okapi.
Kasaï Oriental, 5 bus de la société de transport du Congo, Transco, vont désormais assurer le transport public des personnes à Mbujimayi. Ces bus sont arrivés pour la première fois à Mbujimayi hier, après 3 semaines de voyage à partir de Kinshasa. Cependant, aucune annonce n'a été faite sur les lignes à desservir ainsi que le prix de transport en commun. La présence de ces bus a suscité la joie des habitants de la ville diamantifère. Reportage signé Esther Dalafina.
Les 5 bus arrivés pour la première fois en Mbujimayi ont été accueillis depuis le péage de Chibombo à l'entrée de la ville par les autorités provinciales. Les habitants amassés le long des artères ont exprimé leur joie au passage de ce premier convoi de bus sur plusieurs artères de la ville.
Nous sommes très contents de l'arrivée des 5 bus à Mbujimayi. Nous les accueillons à bras ouverts avec beaucoup de joie. Le transport sera très facile parce que ici à Mbujimayi, les gens souffrent. Ils montent sur des motos avec des accidents. Mais avec les bus, le moyen de transport sera un peu facile.
Ça va faciliter le transport, ça va nous épargner aussi aux accidents, des circulations, parce qu'il n'y avait que des motos. Mais pour le moment, il y a des bus, nous sommes très contents et très ravis.
Depuis plus d'un mois, les artères de Mbujimayi s'articulent les unes aux autres pour former un réseau urbain grâce au projet Chilegelou, Safrimex et JMC qui prévoit la réhabilitation et la modernisation de 74 km de route. Le bus Transco, un moyen de déplacement attrayant, vont opérer sur ces réseaux routiers de qualité. Cependant, des sources proches du gouvernement provincial indiquent que les lignes à desservir, les frais de transport ainsi que le débit des opérations de transport des personnes ne sont pas encore définis par les autorités provinciales. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Programme de développement des 145 territoires. Au Kasaï central, les agences locales d'exécution sont déjà à l'œuvre dans 3 territoires sur les 5 que compte cette province, assure le bureau central de coordination BCECO. Le coordonnateur provincial de BCECO indique que plusieurs infrastructures sont en construction à Dimbelenge, Luisa et Kazumba, notamment des écoles et centres de santé dans chaque zone. Jean-François Malangou souligne que selon le chronogramme, ces ouvrages seront prêts dans 6 mois. Le coordonnateur provincial de BCECO au Kasaï central explique au micro de François Kadima.
Dimbelenge, nous avons les missionnaires des Rosaires qui s'occupent des travaux de construction des différentes écoles. Ils ont 2 écoles à construire. Ils ont le centre de santé, ils en ont 2. Dans les centres de santé, ils sont au niveau de différents secteurs. Ils sont à Benambié, ils sont dans le secteur de Lukibu, ils sont dans le secteur de Kundui, ils sont dans le secteur de Luboudi. Et à Kazumba, Beprod a 4 ouvrages sur place, les travaux de construction dans le secteur de Mbulungu, le centre de santé de Kafuba, Luisa, nous avons les travaux de construction des écoles primaires et des centres de santé. Nous avons 4 ouvrages qui se construisent dans le secteur de Lueta et nous avons 2 ouvrages qui se construisent dans le secteur de Kabelekesse. Nous avons aussi le secteur de Luachi et le secteur de Lusanza, sans oublier les centres de santé dans le secteur de Bambaï.
Actualité internationale. 6 soldats de la paix de l'ONU ont été blessés dans le centre du Mali. C'était lorsque 2 véhicules blindés d'un convoi ont été touchés par des engins explosifs improvisés distincts, ont déclaré les Nations Unies le lundi. Les Américains renouvellent ce mardi 8 novembre la Chambre des députés, 1/3 du Sénat et des très nombreux postes locaux. Joe Biden va-t-il perdre la courte majorité qu'il détient dans les 2 chambres et peiner à appliquer son programme les 2 prochaines années? Tous les yeux se tournent vers les États clés où démocrates et républicains sont au coude à coude. Des millions de dollars ont par exemple été dépensés en Pennsylvanie, en Géorgie et en Arizona.
L'invité.
Il nous vient de la province de la Tchopo. Les autorités relancent dès l'année prochaine un vaste programme de lutte contre la malnutrition dans la province. Ce plan dénommé Plan stratégique multisectoriel de nutrition pour l'exercice 2023-2025 est déjà mis en place. Les états généraux de l'agriculture et de la nutrition organisés à Kisangani en octobre 2019 avaient révélé que 43% d'enfants et 39% des filles en âge de procréer souffraient de malnutrition. En quoi consiste ce plan et quelles sont les activités envisagées pour lutter contre la malnutrition? Réponse à ces questions et à d'autres avec notre invité, le docteur Francis Bailongandi, chef de division provinciale de la santé dans la Tchopo. Il s'entretient avec Jacques Moukonkole.
Monsieur le chef de division provinciale de la santé, Tchopo, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Nous venons d'assister à la présentation du plan stratégique provincial multisectoriel de nutrition dans la Tchopo 2023-2025. En quoi consiste-t-il?
Oui, merci, monsieur le journaliste. Je savais très bien que la malnutrition constitue un problème de santé publique au niveau de notre province et au niveau de notre pays. Ainsi que sur le plan mondial, il y a une stratégie qui a été montée, c'est le mouvement Chante, pour pouvoir booster des efforts enfin d'arriver à réduire, à faire face à la malnutrition sous toutes ses formes. La province ayant souscrit à cette stratégie, il fallait monter, produire un plan qui va permettre à ce que d'ici à 2030, telle que la vision de ce mouvement SAN le fixe, qu'on arrive à réduire suffisamment tout ce qu'il y a comme manifestation de la malnutrition au niveau de la province. Ce plan a été produit depuis 2019, a été recadré pour pouvoir mener un certain nombre d'activités et fédérer autour de cela les différents intervenants, gouvernement, société civile, partenaires, ainsi que le secteur agriculture, santé, pêche, élevage et autres.
Lors des états généraux de l'agriculture et nutrition de la province de la Tchopo en 2019, il a été révélé que 43% d'enfants de la Tchopo souffrent de la malnutrition. Est-ce que ce plan stratégique peut être considéré comme une réponse à cet état des choses?
Oui, effectivement, c'est de toutes ces analyses-là de la situation de la nutrition au niveau de la province que l'autorité provinciale avait pris l'option de pouvoir organiser ces états généraux de l'agriculture et de la nutrition qui ont abouti à la production de ces documents. Ces documents-là, le plan provincial multisectoriel, c'est une réponse pour pouvoir adresser les différents problèmes qui ont été identifiés et pouvoir faire face à cela et réduire. Si vous regardez dans ces plans, il y a des objectifs qui ont été fixés pour réduire d'autant la malnutrition chronique, la malnutrition aiguë, la carence en micronutriments. Donc, toutes ces activités qui sont déclinées dans ces plans stratégiques, si on arrive à les mettre comme il se doit, vont nécessairement aider à ce que l'on puisse, à l'horizon 2030, arriver à réduire suffisamment la malnutrition sous toutes ses formes.
Alors, quelles sont les activités que vous avez envisagées pour combattre la malnutrition?
Oui, il y a des activités qui ont été envisagées, notamment par exemple la sensibilisation autour des pratiques familiales essentielles. Dans les pratiques familiales essentielles, vous allez trouver entre autres le lavage de mains, la mise au sein de l'enfant dès la naissance et puis l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Ce sont tant des pratiques. Il y a aussi des activités comme la supplémentation en micronutriments, la promotion des aliments riches en micronutriments. Tous ces tant d'autres actions qui pourront être menées pour pouvoir arriver à atteindre ces objectifs.
Tout cela est bien beau, docteur Francis. Est-ce que les moyens sont disponibles pour arriver à atteindre ces...
Oui, les moyens, c'est ça. Vous voyez, le comité, si le comité a été créé, entre autres, dans les axes, vous trouverez qu'il faut améliorer la coordination, il faut arriver à mobiliser les ressources autour de ça. La réunion d'aujourd'hui, vous avez vu, ça a regroupé les gouvernements, bien sûr, mais aussi les différents partenaires, la société civile, pour effectivement arriver à dire aux gens, les plans sont là, mais jusqu'à présent, ces plans-là souffrent de ressources pour pouvoir mettre en œuvre les différentes activités. On peut beau avoir le plan, mais s'il n'y a pas de ressources, rien ne peut se faire. C'est ainsi que nous avons commencé par interpeller l'autorité provinciale au premier plan, que le gouvernement provincial soit le premier à mettre la main et que tous les autres partenaires qui sont au niveau de la province puissent arriver aussi à donner et aussi capter les différentes autres interventions qui se font à gauche et à droite pour pouvoir tout fédérer et pouvoir appuyer la mise en œuvre de ces plans stratégiques.
Quelle chance vous accordez à la réussite de ce plan?
Bon, vu déjà l'importance et l'intérêt que l'autorité provinciale vient de manifester, et les différents partenaires, et l'intérêt et l'importance de la nutrition et de l'alimentation, déjà au niveau de la communauté, nous osons croire que les différents partenaires pourront contribuer pour que ces plans stratégiques puissent être mis en œuvre et qu'à l'horizon 2030, que nous puissions aussi être au rendez-vous d'éliminer la malnutrition sur toutes ces...
Merci, docteur Fancy.
C'est à moi de vous remercier, Jean-Jacques.
Le chef de division provinciale de la santé dans la Tchopo répondait aux questions de Jacques Moukonkole. C'est la fin de ce journal coordonné par Élisée Tchikotati Vueta sous la supervision de Martin Sebujangwe. Polydor Basunga, la mise en onde, et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci d'avoir été des nôtres.